Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Suite de notre série consacrée aux métaux, après la mainmise chinoise sur les terres rares lundi, après l'organisation des marchés des métaux hier, place aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l'extraction minière et direction l'Amérique latine. Amérique latine, désastre écologique et lutte sociale.
Une des conséquences de la présence de la mine dans cette région, c'est qu'ils nous ont fragilisés. Le gouvernement dit « on va vous offrir le développement ». De quel développement s'agit-il? Pour nous, c'est de la dépendance.
Les ingénieurs ne montrent jamais leur visage. Ils préfèrent envoyer la police. Est-ce cela dont est capable la mine? Ce n'est pas juste.
On savait qu'on allait être ici pendant un mois. Nous devons continuer à lutter pour nos droits. Si nous devons rester encore un mois ici, nous le ferons. Si nous devons rester plus longtemps encore, nous le ferons. Nous avons la force de rester déterminés aussi longtemps que nécessaire.
Et oui, en mars dernier, les salariés de la plus grande mine de cuivre au monde dans le désert d'Atacama au Chili ont fait grève pendant plus d'un mois pour protester contre leurs conditions de travail et pour de meilleurs salaires. Au Pérou, en Argentine, les conflits se sont également multipliés ces dernières années entre les populations locales et les multinationales minières accusées de violences et de dégâts environnementaux. Au cœur des contestations, les ressources en eau contaminées mais aussi captées de façon massive par l'industrie minière. Si les paysans et les militants écologistes obtiennent parfois gain de cause, au Pérou par exemple les projets de Tia Maria et de Conga ont été suspendus, la hausse des prix des métaux pourrait relancer les tensions dans ces pays où la production et l'exportation des métaux constituent l'un des principaux facteurs de croissance. D'autant que les gouvernements, conservateurs ou libéraux installés en Argentine, au Pérou ou au Chili, semblent enclins à accélérer cette tendance malgré les protestations. Alors, quel est l'état actuel du rapport de force entre les grandes compagnies minières, les États et les populations locales depuis la région de Cajamarca? Marca au Pérou et la province de Salta en Argentine, les revendications environnementales sont-elles vraiment premières ou cachent-elles d'autres demandes économiques, sociales, politiques? N'est-ce pas plus largement le modèle dit néo-extractiviste qui atteint ses limites? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin deux personnes. D'abord, Kila Grieco, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante, chercheuse en anthropologie au CERMA, le centre de recherche sur les mondes américains de l'EHESS, et vous avez réalisé toute une étude sur le rejet de l'activité minière dans la région justement de Cajamarca, dont je parlais, sur les plateaux andins au nord du Pérou. On l'évoquera tout à l'heure avec vous. À vos côtés, Sébastien Velu. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, Sébastien Velu. Vous êtes géographe, professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, l'IHEAL de la Sorbonne Nouvelle, et vous aviez coordonné, vous l'avez devant vous, un numéro des cahiers des Amériques latines sur la question de l'extraction minière. Je vais commencer avec vous, Sébastien Velu. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu une multiplication des conflits autour de sites miniers, depuis le Pérou jusqu'au Chili, en passant par l'Argentine ou le Brésil. Il y a des dizaines de mobilisations qui ont eu lieu un petit peu partout. Alors, ce sont des revendications autour d'enjeux environnementaux, mais aussi sociaux, parce qu'en réalité, les deux, on va le voir, sont très souvent parfaitement imbriqués. Au fond, pourquoi cette montée en puissance des contestations sociales sur les sites d'extraction minière, et qu'est-ce que ça vous semble révéler, Sébastien Velu?
Eh bien, d'abord, ça révèle la croissance de l'extraction minière dans le continent depuis une quinzaine d'années. C'est une croissance qui a été préparée dès les années 90 par une série de changements législatifs qui ont assoupli les conditions d'installation des mines, qui ont assoupli la question des permis miniers, qui a donc donné un cadre nouveau à cette activité. Et cette activité, elle se développe donc à partir du début de ce siècle, tirée par des prix élevés des matières premières. Et elle atteint, ce qui est nouveau, des territoires qui jusqu'à présent n'étaient pas des territoires miniers. En Amérique latine, et particulièrement dans la région andine, il y a une longue tradition minière qui est pré-incaïque même. Et là, on va voir apparaître des sites miniers également en Argentine, par exemple, également en Colombie ou dans le sud du Chili, dans des territoires où la mine n'était pas si fortement intégrée aux sociétés locales.
Sébastien Velu, est-ce que c'est pas aussi le signe, peut-être, comme je disais dans mon introduction, que le modèle extractiviste ou néo extractiviste, qu'on appelle aussi développementaliste, peut-être qu'il faudra d'ailleurs dire de quoi on parle exactement, mais est-ce que c'est pas aussi le signe que ce modèle-là, c'est-à-dire par lequel finalement on assure le progrès social par l'exploitation, disons, un peu débridée des ressources naturelles et notamment des ressources minérales, est-ce que c'est pas aussi ce modèle-là qui est à ses limites?
Oui, on peut dire cela. Après, il faut distinguer, comme vous venez de l'évoquer, néo-extractivisme ou extractivisme, et d'autre part, développementalisme ou développementisme.
Quelle distinction ?
Alors, extractivisme, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire utiliser les ressources naturelles pour tirer la croissance. Et effectivement, c'est le choix qui a été fait par la plupart des pays d'Amérique latine depuis une quinzaine d'années. Mais finalement, c'est un système de spécialisation productive qu'on avait déjà connu par le passé. Développementisme, comme on le dit en Amérique latine, c'est l'idée que l'État doit être plus présent, doit piloter, doit redistribuer et susciter le développement. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, l'extractivisme va fournir aussi des ressources au développementisme, mais développementisme signifie plus de présence de l'État.
Ce rejet peut-être du modèle néo-extractiviste, en tout cas de la part d'une partie de ces sociétés andines, peut parfois prendre des formes extrêmement violentes, conduire à des drames. Il y a eu par exemple en août 2016 ce ministre de l'Intérieur bolivien qui est envoyé dans un conflit minier par Evo Morales. Il est enlevé, il est torturé, il est séquestré et puis finalement il est assassiné. Donc c'est un niveau de violence qui doit nous pousser, Sébastien Velu, à nous interroger sur ses origines. Et si souvent il est question de défense de l'environnement, c'est pas la seule raison, il y a quelque chose en plus. C'est quoi ce quelque chose en plus? Je fais référence à une formule qui est utilisée justement dans le cahier des Amériques latines avec lequel vous êtes venu sur l'extraction minière.
Je pense que y a plusieurs types de conflits déjà sur l'environnement. C'est-à-dire que pour moi, je crois qu'il faut distinguer quand même des conflits qui sont liés très directement aux situations des populations locales. Parce que c'est sûr que la mine, elle change beaucoup les choses et ça, il faudra quand même un peu le préciser. Et puis, des conflits plus généraux hein, sur l'environnement qui sont portés davantage par des populations urbaines. Et finalement, donc on a ces deux types de conflits vers lesquels vont converger toutes sortes de clivages et de ruptures politiques qui existent dans les pays. C'est-à-dire c'est des points de fixation hein, de conflits politiques ou sociaux plus larges.
Oui, parce que la mine, c'est un lieu évidemment très particulier. C'est un secteur par lequel les classes sociales se sont construites. C'est souvent de là que sont partis des conflits qui parfois même se sont transformés en révolution. C'est le cas par exemple pour la révolution mexicaine. En fait, la mine, c'est un lieu potentiellement porteur de transformation sociale. C'est pas n'importe quel lieu, la mine.
Alors, c'est pas n'importe quel lieu, mais comme je vous le disais, c'est aussi, ce sont des lieux qui sont marqués d'histoire en Amérique latine. Et on fait actuellement, avec des collègues, tout un travail justement sur le patrimoine minier, qui est tout à fait considérable. Mais ce qui change aussi depuis une dizaine d'années, c'est que les échelles d'exploitation ont changé. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que autrefois, pour dire les choses simplement, on creusait et puis on allait chercher au fond de la terre les minerais dans des gisements assez petits et de haute teneur. Aujourd'hui, avec des technologies beaucoup plus massives, beaucoup plus invasives et beaucoup plus destructrices, on va exploiter des gisements à faible teneur et donc on va décaper toute une couche de montagne, la triturer, la passer dans des solvants chimiques pour récupérer après de l'or, de l'argent ou du cuivre.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces mines sont des lieux où se renégocient les règles du jeu d'une certaine manière, où se renégocient, se recomposent les rapports de force entre l'État central et les travailleurs? Historiquement, ça, on le voit.
Je pense que c'est pas tout à fait ça.
Ah.
Je pense que, en tout cas, c'est pas le seul scénario où cela se négocie.
Ouais.
C'est d'abord la négociation des conditions de travail des mineurs. Ça, vous en avez parlé au début, mais plus largement, c'est surtout la position de ceux qui ne travaillent pas dans la mine et qui voient arriver hein, comme parachuté hein, cet objet qui est particulièrement massif et porteur de changement.
On va prendre un cas pratique. On va prendre la direction du Pérou.
Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe. El oro no se come.
L'or ne se boit pas, l'or ne se mange pas, l'or fait couler le sang. Extrait de Hija de la Laguna, réalisé par Ernesto Cabellos Damian, qui raconte le combat d'une jeune péruvienne, Nelida, contre les projets pharaoniques d'une compagnie minière qui pourrait priver les villageois d'une inestimable ressource, l'eau. Ce projet, c'est celui de la mine de Conga. Kira Grieco, vous avez justement travaillé sur cette région de Cajamarca, dans laquelle le secteur minier a été fortement relancé depuis les années 90. Vous êtes intéressé notamment au conflit autour de ce projet de mine de Conga. Alors je vais rappeler quelques éléments pour nos auditeurs. On est en 2010, le pays valide le lancement de ce qui doit être le plus grand projet minier de l'histoire du pays, mené par un consortium qui s'appelle Yanacocha, qui est principalement détenu par un groupe américain, Newmont Mining. Mais face à la colère sociale, le projet est d'abord suspendu en 2011. Il faut dire qu'il y a une grève générale très importante qui va paralyser totalement l'activité des alentours. Le président, qui est alors nouvellement élu, Ollanta Humala, proclame l'état d'urgence. Plusieurs ministres déposent leur démission. C'est la première grande crise politique finalement à laquelle le nouveau président doit faire face. Je rappelle que depuis, il a été remplacé par Pedro Pablo Kaczynski. Mais finalement, en février 2012, le projet est relancé après un audit qui est commandé par le gouvernement, concluant au respect des normes environnementales. Mais les manifestations reprennent et il est à nouveau suspendu jusqu'à, je cite, « jusqu'à ce que la compagnie américaine Newmont fournisse des garanties sur la préservation des ressources locales en eau ». Voilà les termes du premier ministre péruvien à l'époque, Juan Jiménez. Aujourd'hui, le projet est toujours suspendu. Il peut reprendre ?
Bah oui, il peut reprendre. Alors là, au moment où ils ont suspendu le projet, initialement, le projet était suspendu pour une durée de 2 ans, pendant lesquelles la compagnie allait justement mener son travail de construction des réservoirs d'eau dans la zone et continuer à travers son programme de responsabilité sociale, voilà, à, on va dire, rassurer la population par rapport à leur crainte pour les réservoirs.
Quelles sont justement les craintes précises sur le plan environnemental? Quelles sont les menaces qui pèsent avec ce projet?
Alors, il faut dire que le projet Minas Conga, il hérite de l'expérience de la compagnie minière Minera Yanacocha, qui est active dans la région de Cajamarca depuis l'année 92, début de production 93. Et cette mine, ça a été le premier grand projet, voilà, au début des années 90. Un projet d'extraction à ciel ouvert. La mine aujourd'hui, elle fait à peu près la taille de Paris Inframuros, donc c'est voilà, une extension territoriale importante, avec une production d'or et de cuivre parmi les plus importantes du pays. Donc aussi un enjeu politique et économique majeur. Et cette compagnie a été objet de plusieurs conflits à partir de la fin des années 90 et surtout au cours des années 2000. Et surtout, bon, les premiers conflits ont été autour plutôt de l'achat des terres, de la politique d'achat de la compagnie à des prix, qui assez bas à l'époque et qu'après ont souffert de l'inflation du prix de la terre. Et à partir des années 2000, on a commencé dans la région, il y a plusieurs ONG environnementalistes qui se sont formées et qui ont commencé à diffuser des informations sur la pollution des eaux.
Et parce que c'est véritablement le gros enjeu. Par exemple, ce projet dont on parle nécessite d'énormes quantités d'eau. C'est visiblement, c'est ce que j'ai lu hier en préparant l'émission, 2 millions de mètres cubes par an. Donc c'est colossal. Ça veut dire qu'il prévoit d'assécher 4 lacs, une vingtaine de lagunes, des centaines de sources, des dizaines de canaux d'irrigation. Donc le vrai risque pour ces populations, c'est de se retrouver sans eau potable. Et j'ajoute aussi que la contamination des eaux, c'est déjà une réalité. Parce que si on regarde par exemple la ville de Cajamarca, près de 70% des eaux sont déjà impures à la consommation. Ce qui explique aussi pourquoi les populations ne croient pas aux garanties, je mets des guillemets, qui sont avancées par le consortium.
Carrément. Et surtout que Minera Yanacocha, en 20 ans d'activité, il y a eu plusieurs incidents de pollution, voilà, avec des morts de poissons, des preuves tangibles. Donc du coup, la population est très méfiante envers les garanties du gouvernement central et de la compagnie.
Pourtant, Kira Grieco, il y a des lois au Pérou qui sont censées protéger l'environnement, qui sont censées empêcher les projets de nature à altérer l'écosystème et les ressources hydriques. C'est une loi qui remonte à 2009.
Oui, il y a des lois. Après, je vous dis ce qui concerne les populations locales, c'est que souvent les preuves chimiques de la qualité des eaux sont faites à Lima par des compagnies spécialisées qui souvent travaillent aussi avec les compagnies minières. Donc, il y a une certaine superposition d'intérêts.
C'est carrément une collusion là. C'est plus une super.
Ou pas. De toute façon, localement, on se dit, c'est aussi que souvent, on a les preuves chimiques, on dit, bon, l'eau est absolument apte à la consommation humaine, par exemple, alors que les habitants remarquaient un appauvrissement de la flore et de la faune aquatique. Donc la mort de petits animaux, de petits poissons, etc. Donc il y a aussi, on va dire, des savoirs locaux, des observations pratiques qui vont à l'encontre des savoirs scientifiques officiels.
Sébastien Velu, on le voit par exemple sur cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, l'État très souvent n'hésite pas à réprimer les manifestations, à mettre en place des états d'urgence pour procéder à des arrestations sommaires, des fouilles et autres mesures arbitraires, mais on ne se limite pas à une restriction des droits civiques et des libertés. Il y a des manifestations qui ont été qui ont été carrément tués par la police. Il y a des assassinats ciblés, sans qu'on parvienne évidemment à chaque fois à établir des responsabilités directes des autorités. Mais on voit bien que ces contestations sociales, elles provoquent de la part des autorités une réponse qu'on pourrait peut-être qualifier, je ne sais pas si c'est abusif, vous allez nous le dire, mais il y a une forme de dérive autoritaire dans tout cela. Jusqu'où ça pourrait aller, selon vous ?
Je ne sais pas s'il faut parler de dérive autoritaire. Je pense que on peut parler de bavure, indiscutablement, effectivement, d'un usage disproportionné de la force.
Quand on utilise l'état d'urgence et qu'on le répète et qu'on est quasiment dans un régime d'état d'urgence, est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de dérive autoritaire ?
Il faut voir que dans des régions comme le sud du Pérou, par exemple, ou certaines régions de la Bolivie, la présence de l'État est faible. Elle est toujours négociée, et donc c'est aussi cela qui explique la crainte de l'État et son recours à des mesures exceptionnelles, parce que ce sont plutôt des États faibles, en fait, et qui doivent déployer des moyens exceptionnels pour contrôler ces situations.
Dans les territoires qui, en particulier, sont marginalisés et où l'État est très peu présent.
Périphériques et marginaux.
Kira Grieco, essayons de comprendre finalement pourquoi l'État et les populations locales ne se comprennent pas. Vous dites que les débats autour de ce conflit se sont polarisés autour de deux approches. L'une, la première, celle finalement du gouvernement, qui se veut strictement ou presque uniquement technique, c'est-à-dire avec des rapports d'expertise, avec tout un vocabulaire technico-scientifique. Et puis de l'autre côté, on a des opposants, que ce soit les populations locales, des militants, qui, eux, défendent une approche vraiment purement politique, évoquant l'intérêt collectif, l'intérêt commun. En fait, on a là, face à face, deux camps qui ont des approches totalement différentes, ce qui rend l'entente quasiment impossible, en réalité.
Moi, je dirais plutôt que l'approche des manifestants, étant que les instruments, le langage technoscientifique, l'autorité technoscientifique est difficilement mobilisé par les réseaux militants, je dirais qu'il s'agit plutôt de quelque chose qui, à mon avis, est très sain, c'est-à-dire de repolitiser le rapport à l'industrie minière et le rapport des populations locales au gouvernement. Donc, en quelque sorte, on peut aussi concevoir ça comme une forme de réappropriation d'une citoyenneté active. Et ce qui, au Pérou, notamment, se produit, c'est intéressant parce que les conflits liés à l'activité minière se sont multipliés à partir des années 2000, avec la multiplication des projets miniers, mais aussi avec un retour à la démocratie après 10 ans du régime de Alberto Fujimori. Donc il y a aussi un retour du politique, on va dire, à travers les mouvements sociaux, qui mobilise plusieurs demandes différentes.
C'est-à-dire que ce que si je vous comprends bien, peut-être que je vais aller dans votre sens et peut-être trop, vous me le direz, mais est-ce que ça veut dire que ces conflits sont aussi des lieux où il est aussi question d'identité nationale, etc.
Oui, d'autorité locale, de revendiquer par exemple un contrôle des autorités locales sur le territoire et sur le planning territorial. Ça a été un enjeu majeur à Cajamarca.
Sébastien Velu.
Ce que montrent bien les sociologues et les spécialistes de sciences politiques sur l'Amérique latine, c'est qu'effectivement, après la démocratisation qui se produit fin des années 80 ou années 90, ou plus tardivement au Pérou, comme vient de le dire Kira Grieco, on a un renforcement de ces identités locales. On laisse plus de place aux populations indigènes, par exemple, pour revendiquer le fait qu'elles sont des populations indigènes et qu'elles doivent donc bénéficier d'un traitement différencié. Et effectivement, c'est toute cette constitution politique qui s'est refaite dans ces années, qui est à nouveau mobilisée dans le conflit minier. avec les discours sur, effectivement, les sociétés locales, sur les identités spécifiques et leurs particularités qu'il faut préserver par rapport à un discours, disons, d'économie orthodoxe, hein, qui est porté par l'État, qui dit, ben, écoutez, il y a des ressources minières, exploitons-les en respectant les normes et les bonnes pratiques internationales.
Ce qui est intéressant dans le cas Kira Grieco de cette mine de Konga et des mobilisations qui vont avec, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y avait deux discours, finalement, qui se regardaient l'un en face de l'autre, avec d'un côté ce discours très technique du gouvernement et de l'autre côté ce discours très politique des militants. On voit aussi que les militants sont capables d'aller chercher ce discours très technique. Il y a eu, par exemple, progressivement, pas tout de suite, mais progressivement, on va les appeler les antimines, qui ont produit des études sur la base d'indicateurs biologiques, sur la base d'indicateurs de pollution. Donc il y a eu la fabrication d'une certaine contre-expertise qui est venue s'opposer à l'expertise officielle.
Oui. Et qui, du coup, a validé aussi ses savoirs locaux et pratiques, on va dire.
Sébastien Velu.
Oui, après, je crois qu'il faut... ces conflits sont importants, mais il faut aussi bien voir qu'on a aussi beaucoup de situations dans lesquelles il n'y a pas de conflit. Ou alors, ils n'apparaissent pas.
Oui, ou la grève prend, finalement.
La grève prend, hein, c'est ce qu'on essaye de montrer avec Vincent Boss dans le numéro des Cahiers des Amériques latines. Et, par exemple, ce que vous évoquiez au début, le nord du Chili, il y a des conflits sociaux sur les conditions de travail dans la mine ou sur les salaires, mais il n'y avait pas question de sortir les mines
absolument,
du nord du Chili.
Ouais. Il faut dire qu'évidemment, les mines et en particulier le cuivre sont absolument essentielles pour l'économie chilienne. On va y venir dans quelques instants. Je voudrais qu'on reste encore un instant sur le Pérou.
Durante estos años que nos ha afectado la empresa minera,
depuis de nombreuses années, nous subissons les activités de l'entreprise minière. Cela fait plus de 30 ans, 33 ans cette année. Auparavant, nous possédions du bétail en grande quantité pour les besoins de notre agriculture. Depuis que l'entreprise minière a débuté ses activités, nous n'avons cessé de nous appauvrir, en particulier à cause de la présence de métaux lourds.
En una zona pobreza, claro, enriquecido con metales pesados.
Voilà, cette femme qu'on entendait, c'est Melchora Surco, une représentante de l'association pour la défense de Paco, affectée par l'activité minière de Alto Ancané au Pérou. Vous aviez étudié Kira Grieco par la question du genre, enfin pardon, vous aviez regardé la question du genre au prisme justement des conflits miniers. Et vous avez essayé de comprendre finalement quelle était la place, le rôle des femmes dans ces conflits et comment les mobilisations permettaient aussi peut-être de renégocier, de recomposer les rapports de genre. Vous avez fait beaucoup d'entretiens auprès de femmes, c'était entre 2011 et 2013. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Quelle spécificité justement pour les femmes dans ces mobilisations?
Alors, je sais pas si je peux généraliser à toutes les mobilisations liées à l'extraction minière comme
celles que vous avez observées en tout cas.
Celles que j'ai observées. Alors, ce qui était une particularité, c'est que les femmes dans la région Cajamarca, elles se mobilisent avec un discours que moi j'appelle maternaliste, donc un discours qui met en avant une identité de genre et qui est associée à l'identité maternelle. Donc elles disent se mobiliser non pour leurs droits à elles, mais pour les droits des générations futures, pour le bien-être de leurs enfants, des personnes qui les entourent et des générations qui vont suivre. Et c'est un discours très unifié, très unificateur, qui est utilisé par des femmes de toute classe sociale, de tout âge, certaines qui sont des mères biologiques et certaines qui ne le sont pas et ne le seront pas. Donc... c'est vraiment une forme de, on va dire, identité de genre essentialisée, mais qui du coup donne une place aux femmes très légitimes à l'intérieur d'un mouvement social où, on va dire, le premier danger pour les militants est celui d'être étiquetés, d'être dénommés comme des terroristes ou l'accusation de politisation tend à délégitimer les protestations. Donc les femmes qui se mobilisent sous un discours qui n'est pas ouvertement politique et qui refuse toute affiliation politique formelle, voilà, elle gagne beaucoup de légitimité et de visibilité de cette façon.
Et qu'en est-il après le conflit? Parce que vous parlez d'une masculinisation des gains et d'une féminisation des pertes.
Oui, alors je parle
Les hommes sont les gagnants et les femmes sont les perdantes à l'arrivée?
Alors, je parle de la masculinisation des gains et de la féminisation des pertes plutôt par rapport à la croissance liée à l'activité minière, parce qu'on voit une distribution assez inégale, voilà, dans à l'intérieur des secteurs économiques et entre différents secteurs économiques, entre les hommes et les femmes. Donc, il y a généralement l'économie minière creuse les inégalités de revenus entre hommes et femmes, ce qui est en partie lié à la participation des femmes en mobilisation, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la question de l'eau, donc les femmes qui, notamment les femmes rurales, mais même en milieu urbain, qui se chargent du foyer, sont beaucoup plus dépendantes d'un approvisionnement hydrique, voilà, fiable et régulier, que les hommes. Donc elles ressentent beaucoup plus aussi la problématique.
Sébastien Velu, revenons aux décideurs politiques. Olyanta Humala avait fait une campagne très critique par rapport au modèle extractiviste. Il se voulait le champion de l'inclusion sociale. Il se montrait même assez ferme vis-à-vis des sociétés minières dont il disait qu'il allait les obliger à plus de redistribution. Pourquoi, une fois arrivé au pouvoir, il s'est montré beaucoup plus enclin à poursuivre cette voie extractiviste ?
Effectivement, on a eu une déception liée à la présidence de Ollanta Humala, dont on pensait qu'elle serait plus à l'écoute des besoins sociaux du Pérou, plus attentive à ses demandes et puis à ses problèmes qu'on vient d'évoquer par rapport aux grandes entreprises. Et puis finalement, il a fait comme les autres. Mais je veux dire, il n'est pas le seul. Et finalement, ces gouvernements de gauche en Amérique latine ou qui se réclamaient de gauche ont tous suivi cette voie de l'extractivisme parce que c'était la plus facile également pour remplir les caisses de l'État, également sous la pression de groupes d'intérêt qui poussent très fortement ces projets auprès des décideurs politiques. Et Ollanta Humala fait l'objet d'une enquête pour corruption, son prédécesseur également. Monsieur Fujimori vient de sortir de prison dans des circonstances peu claires. Donc,
Humala, il est au cœur d'une affaire de corruption. Il est accusé d'avoir reçu des pots de vin. Tout ça dans cette immense affaire de corruption autour de la société brésilienne Petrobras, qui est vraiment une affaire, un scandale qui ébranle la classe politique brésilienne et bien au-delà depuis des années. Et alors, le nouveau président Pedro Pablo Kuczynski, qui est arrivé en 2016, est-ce que son rapport au modèle néo-extractiviste est différent de son prédécesseur ou est-ce qu'on est dans la même ligne ?
Je pense qu'on attend pas de lui de changement majeur sur ce domaine. Au contraire, c'est quelqu'un, plutôt un représentant de l'orthodoxie économique, puisqu'il a travaillé dans différentes institutions internationales.
Kira Grieco ? De même. Rien à attendre des décideurs politiques,
quels qu'ils soient. Je dirais que la couleur était annoncée dès le début.
Et quelle que soit la couleur politique. On est avec Sébastien Velu et Kira Grieco. Le monde sous perfusion métallique aujourd'hui. L'Amérique latine, désastre écologique et lutte sociale. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. La carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro Cobre, vous connaissez Kira Grieco? C'est Killa Payún, c'est un groupe chilien. Je voudrais qu'on parle justement du Chili, Sébastien Velu, parce que le cuivre en particulier a une place très à part aux Chiliens. Nuestro Cobre, c'est notre cuivre, c'est ça que dit le titre de la chanson. C'est depuis très longtemps le pilier de son économie. Il y a des mines depuis très longtemps, peut-être même on a commencé, c'est vrai, à l'exploiter de façon un peu industrielle au 19e, mais il y en avait déjà avant. Et les choses se sont beaucoup intensifiées dans les années 1920, avec notamment l'arrivée des Américains. Et puis on avance un tout petit peu dans le temps, on a les années 70, le gouvernement de Salvador Allende qui nationalise les mines de cuivre, comme il l'avait promis dans sa campagne. Une décision qui, paradoxalement, ne sera pas remise en cause par le général Pinochet après le putsch militaire. Pinochet a quand même mis en place un système par lequel l'exploitation minière, en tout cas une partie de la rente, va à l'armée. Aujourd'hui, le cuivre, c'est toujours 50% à peu près des exportations du Chili. Il y a quelques jours, Sébastien Velu, l'agence environnementale chilienne a annoncé l'arrêt des travaux de Pascuala Lama, qui est une gigantesque mine d'or à ciel ouvert, qui est pas très loin d'ailleurs de la frontière avec l'Argentine. C'est une grande victoire pour les défenseurs de l'environnement. C'est une déconvenue pour la société minière canadienne qui exploite le site, qui est Barrick Gold. Ça faisait des années que les indigènes de la région réclamaient le respect des normes environnementales qui sont visiblement régulièrement piétinées par cette société. D'ailleurs, elle a été condamnée à une amende de 16 millions de dollars pour violation répétée aux normes environnementales. C'est pas la première fois que le secteur minier chilien connaît des déboires sur la période récente. Il y a eu l'année dernière, par exemple, un autre projet minier qui a été rejeté dans la région de Coquimbo à cause, en l'occurrence, des manchots dont l'écosystème aurait pu être mis en péril. Est-ce que le Chili est en train de vivre un basculement par lequel l'environnement prendrait le pas sur le développement économique?
Je ne le pense pas, et je ne pense pas que ce soit la ligne de travail du président Piñera, qui a été élu donc il y a quelques semaines à la présidence du Chili. Après, ce que vous dites est exact factuellement, hein, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le cuivre, on dit parfois, c'est le salaire du Chili. Mmh. El sueldo de Chile es el cobre. Donc, et du coup, il est absolument central dans l'économie nationale et dans certaines économies régionales, comme dans le Nord. Le projet Pascuala Lama, c'est un projet différent, comme vous l'avez dit, c'est un projet binational, argentino-chilien, sur la cordillère, et qui avait un impact très direct sur les réserves en eau, et notamment sur les glaciers. Et les glaciers, dans les Andes, régulent les cours d'eau, et donc l'alimentation en eau des populations qui vivent en aval. Et c'est autour de cela que le conflit s'est cristallisé. Et finalement, l'autorisation environnementale n'a pas été donnée. Au Chili, il y a une législation qui, sur le papier, est faite pour protéger l'environnement. Et on a vu des projets s'arrêter. Je crois que c'est en partie grâce à la législation et en partie grâce au fait que les militants chiliens, et pas uniquement les militants locaux, sont bien organisés et politiquement actifs. Et qui sont capables de porter aussi devant les tribunaux des contre-arguments et de faire reculer, au moins pour un temps, les compagnies lorsque les conséquences écologiques paraissent véritablement trop négatives.
Mais quand même, aujourd'hui, ce Chili, il est dans un moment très important. Il doit trouver le bon équilibre, s'il y en a un, entre les exigences des écologistes et puis celles des entreprises. Vous l'avez dit, le pays vient d'élire un nouveau président, Sébastien Piñera, qui avait déjà été président entre 2010 et 2014, avant d'être remplacé par Michel Bachelet. Il va être investi dans quelques jours. Il va hériter de cette loi dont je parlais, qui est la loi réservée, qui prévoit qu'une partie de la rente minière soit réservée à l'armée, donc cette loi qui remonte au général Pinochet. Il l'avait dit dans sa campagne qu'il réformerait cette loi. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Quelles sont les décisions qu'il pourrait prendre? Et puis, quelles conséquences à attendre sur le secteur minier et notamment sur le cuivre?
C'est deux choses différentes. Hein. C'est-à-dire que d'une part, il y a cette loi qui disait, parce qu'elle était déjà fortement remodelée sous
le gouvernement
Bachelet, qu'une partie des exportations du cuivre allait directement dans les caisses de l'armée.
Elle est toujours là et il a dit qu'il allait la changer.
Et par ailleurs, donc il y a la croissance des secteurs miniers du cuivre en général. Maintenant, je ne pense pas que l'armée au Chili ait le même poids qu'elle avait il y a 20 ans. Et c'est sans doute une bonne nouvelle pour le Chili, elle reste puissante. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au Chili, évidemment, l'argent des mines versée aux forces armées, elle sert à acheter des avions et du matériel militaire, mais elle sert aussi à faire tourner l'économie. Il y a de nombreux petits emplois qui dépendent de l'armée, donc c'est aussi une façon de consolider la présence de l'État. Évidemment, c'est pas dit comme ça, mais je pense que c'est aussi une réalité dans de nombreuses régions.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Sébastien Velu, au Chili, la greffe a pris d'une certaine manière, et on accepte ce secteur minier et l'extraction notamment de cuivre. Et en même temps, on voit qu'il y a des conflits. Je disais l'année dernière sur ce site d'Escondida, qui est la plus grande mine de cuivre au monde, qui produit quasiment 5% du cuivre mondial, s'est arrêtée pendant plusieurs semaines. C'était la plus longue grève de son histoire. Alors, en cause, c'était les négociations sur les conditions de travail, sur les salaires. Alors, finalement, les mineurs ont repris le travail, non pas parce qu'on a trouvé un accord, bien au contraire. On n'a pas trouvé d'accord, mais on a invoqué un article du Code du travail qui oblige finalement la direction à prolonger les accords précédents. Il n'empêche que le conflit social est toujours là.
Oui, le conflit social est toujours là, mais finalement, c'est un conflit sur le partage de la valeur ajoutée. C'est pas un conflit spécifiquement minier. On voit au Chili que globalement, les conditions salariales se sont pas plutôt améliorées depuis une vingtaine d'années, précisément parce qu'il y avait une assez forte croissance économique, un taux de chômage faible et puis une certaine capacité limitée de négociation des syndicats, parce qu'effectivement, le cadre de la législation du travail n'est pas non plus très favorable aux syndicats au Chili.
Et l'avenir du secteur minier chilien, il n'est pas remis en cause. Je pose la question parce qu'il y a par exemple, je pense que les auditeurs ont dû voir au moins une fois des photos de cette mine de Chuquimata, qui est la plus grande mine à ciel ouvert du monde, qui est un lieu extrêmement impressionnant. On est dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est un immense trou qui est exploité plus de 100 ans maintenant, depuis 1915. Et aujourd'hui, le trou est si profond que les camions mettent énormément de temps à descendre dans le trou, à remonter. Ça consomme de plus en plus de diesel. Et en réalité, le coût d'extraction est de plus en plus important. Est-ce que cette situation ne pose pas aussi la question de la durabilité de cette rente du cuivre pour le Chili ?
Écoutez, oui, Chuquicamata, c'est une des vieilles mines du Chili. Effectivement, le trou, il fait 1 kilomètre de profondeur, donc c'est assez long pour les gros camions miniers de descendre tout en bas. Maintenant, le Chili a toujours les premières réserves en cuivre du monde, et si c'est pas Chuquicamata qui sera exploité, on commence à exploiter des terrains dont on pensait que les teneurs étaient trop faibles pour être utilisables. Maintenant, on les utilise. Donc, je pense que le Chili va pouvoir exploiter du cuivre pendant encore de nombreuses années, et c'est à la fois sa chance et son drame, parce que ça assure effectivement de l'emploi, ça assure des revenus nationaux et des revenus pour l'État, et en même temps on n'arrive pas à en sortir.
Kira Grieco, finalement pourquoi la greffe a pris au Chili et elle ne prend pas, en tout cas elle prend plus difficilement au Pérou, dans des pays comme le Pérou ou la Bolivie?
Je dirais, en grande partie, ça dépend de la typologie de l'extraction minière. Donc, l'extraction minière au Pérou, la nouvelle extraction minière, et dans la région que j'étudie, il s'agit de mines à ciel ouvert qui offrent un emploi très très limité, et notamment très limité pour les habitants locaux, parce que c'est des techniques d'exploitation hautement mécanisées, hautement spécialisées. Donc, ils recrutent, le personnel est très limité, il s'agit plutôt de géologues, d'ingénieurs, etc. Donc dans une région comme Cajamarca, où il n'y a pas une histoire récente d'extraction minière, les gens n'ont pas cette formation. Et donc la compagnie minière doit forcément amener des professionnels d'autres régions du Pérou. Donc il y a à la fois un emploi limité, un emploi qui favorise des gens qui viennent d'autres régions, donc pas des locaux, et des impacts qui, par contre, sont ressentis à l'échelle locale.
Et pourtant, Sébastien Velu, il y a aussi des pays qui n'ont pas forcément une très grande tradition, j'allais dire, de l'extraction minière, et qui pourtant s'y sont mis. L'Argentine, 1997, l'ancien président Carlos Menem, qui inaugure en grande pompe une nouvelle mine absolument gigantesque, celle d'Alumbrera, ça n'a pas posé problème. On a pu se convertir au néo-extractivisme en Argentine.
Oui, en partie, il y a eu quand même des rejets dans certaines régions de l'Argentine par Esquel, notamment en Patagonie, par rapport à des projets miniers. Dans le cas de la Alumbrera et l'article de Maite Boulosa dans le numéro des Cahiers des Amériques latines le montre, c'est-à-dire que on est dans des régions assez peu peuplées, on négocie avec les populations locales, on fait des arrangements, c'est-à-dire que il y a une hypothèse qui est faite par Vincent Bosse dans sa thèse sur les mines au Pérou, c'est que ces conflits sont une arme de renégociation. C'est-à-dire, on n'est pas forcément contre absolument la mine, mais on cherche aussi à trouver de nouvelles façons de s'articuler avec elle, à obtenir plus d'emplois, à obtenir des meilleures conditions environnementales. Donc, je ne pense pas que le conflit vise forcément à la disparition de la mine, mais aussi à un petit peu à dompter le minotaure qui est là.
Et Mauricio Macri, qui est arrivé en 2015, il va poursuivre aussi sur ce filon néo-extractiviste.
Mauricio Macri, comme Sébastien Piñera, s'inscrit, disons, dans le centre droit plutôt favorable aux affaires. Donc on peut penser que c'est ça qu'il va faire.
On peut s'y attendre. On va prendre tout de suite la direction de la Guyane.
Ça commence comme ça. Parfois, on part à 4 heures du matin. Généralement, il y a 5 ou 6 allers-retours à faire. On amène les paquets de l'autre côté, du barrage, et on revient ici seulement après avoir terminé. On passe toute la journée en forêt. Parfois, on ne mange rien. Chaque chargement comme ça rapporte 60 euros. Nous sommes en tort, car nous sommes dans un secteur protégé. La nature est protégée en France. Les gendarmes font leur travail.
Extrait d'un documentaire de France 24 diffusé l'année dernière sur l'orpaillage en Guyane. On va retrouver Damien Davy depuis Cayenne. Vous êtes anthropologue au CNRS, au laboratoire LEISA, laboratoire écologie, évolution et interaction des systèmes amazoniens. Vous travaillez sur les populations amérindiennes de Guyane depuis une quinzaine d'années et en particulier sur leurs relations au territoire et aux plantes. Et vous êtes un témoin privilégié de ce quotidien de ces populations qui vivent sur les bords de l'Oyapox, fleuve frontalier entre la Guyane et le Brésil et qui souffrent des conséquences notamment écologiques de leur paillage. Il y a quelques jours, Damien Davy, le procureur de la République a publié les chiffres de la lutte contre l'activité aurifère clandestine en Guyane pour l'année 2017 et ils ont explosé. Ils ont dépassé la barre des 609 exactement contre 302 l'année précédente. Quelles sont les raisons selon vous de ces mauvais résultats et est-ce que les populations amérindiennes auxquelles vous vous intéressez ressentent cette pression grandissante, Damien Davy ?
C'est des mauvais résultats peut-être, mais peut-être que s'il n'y avait pas les opérations militaires et de gendarmerie, il y en aura encore plus déjà. En effet, il y a cette grosse problématique avec le cours de l'or qui est toujours fort, à plus de 30 000 euros si je m'abuse le kilo. Et puis en effet, les premiers qui vivent ça sur le terrain, ce sont outre évidemment les garimpeiros qui travaillent dur dans des chantiers difficiles, mais essentiellement les populations amérindiennes du sud qui vivent ça et qui en quelque sorte sont un peu... blasé quoi, dans le sens que d'année en année les pouvoirs publics ont du mal à juguler cette ruée vers l'or qui est très coûteuse en moyens humains et en moyens financiers hein, et qui est très difficile à mener dans une forêt tropicale humide. Donc du coup les populations vivent ça mal puisque pour elles directement c'est des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes de violence, des conflits territoriaux.
Mais justement, parce qu'effectivement, les Amérindiens sont, j'allais dire, en première loge face à ces débordements. Et bien sûr, leur paillage illégal tracte derrière lui un certain nombre de violences, des violences en tout genre, des règlements de compte, des meurtres, etc. etc. Est-ce que ces populations subissent également ces violences ? Je veux dire directement.
Alors, en effet, comme vous dites, donc les populations amérindiennes qui vivent donc sur le Haut Maroni, qui est le fleuve qui fait frontière avec le Suriname, ou le Haut Oyapock et la rivière Camopi qui font frontière avec le Brésil, donc il y a des Amérindiens, Wayana, Wayampi, Teco, qui vivent sur ces territoires. Et alors, leur territoire où ils vont chasser, où ils vont ouvrir leur abattis, c'est-à-dire leur champ d'agriculture itinérante sur brûlis, où ils cultivent majoritairement du manioc, leur zone où ils vont collecter des fruits, leur zone où ils pourraient implanter de nouveaux villages, sont de facto occupés en partie par ces garimpeiros. Et puis, ces garimpeiros, qui sont donc les chercheurs d'or, hein, illégaux, remontent aussi les rivières en passant à côté de leur lieu de vie. Donc du coup, ils vivent une insécurité, par exemple, quand ils vont récolter, par exemple, du manioc dans leur abattis, eh bien, auparavant, un homme pouvait laisser sa femme avec ses enfants faire son travail agricole, et lui, il allait pêcher ou chasser autour. Hein. Mais maintenant, il est obligé de rester à côté, puisqu'il y a déjà eu des cas de vol de pirogue. Donc ça.
Oui, vous racontez, par exemple, qu'il y a 2 ans, il y a eu des violences entre orpailleurs brésiliens et amérindiens suite au meurtre d'un orpailleur qui traversait le fleuve Oyapock sur une pirogue, juste en face d'un village Camopi. Vous nous racontez ça ?
Tout à fait. Ah oui, voilà. Donc, ça amène aussi des tensions réelles. Donc, les forces de l'ordre font un certain nombre d'opérations. Et puis, certains habitants donc des Amérindiens sont des auxiliaires de gendarmerie ou piroguiers de la Légion. Donc, ils participent à ces opérations, mais ils ne sont pas armés. Ils sont uniquement là en tant que connaisseurs du territoire. Et là, il y a eu ce cas-là, il y a 2 ans, en effet, où sur la rivière Camopi, donc, qui se jette dans l'Oyapock, non loin de la frontière, bien sûr, avec le Brésil, eh bien, il y a eu une pirogue qui a été interceptée nuitamment par les gendarmes. Il y a eu des échanges de coups de feu. La plupart du temps, de toute façon, c'est les garimpeiros qui vont tirer en premier. Les gendarmes ne tirent jamais en premier. Le piroguier, le motoriste, comme on dit, celui qui dirige le moteur de la pirogue, a été tué, un Brésilien. Et le lendemain, une rumeur a couru que c'était l'auxiliaire amérindien des gendarmes qui avait tiré. Et c'était faux, puisqu'ils ne sont pas armés. Donc, 70 Brésiliens venant de la ville clandestine de Villa Brasil en face Camopi ont attaqué un petit village amérindien à côté de Camopi qui s'appelle Ilemoula. Et il y a eu des échanges de coups de feu toute une matinée. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu de nombreux blessés côté brésilien. Donc, journellement, il y a des tensions entre les gens. Certes, ils se côtoient dans les commerces, sur la rivière. Il y a une solidarité qui fait un peu comme dans le désert ou quand on est en Amazonie. Si on a des pépins, on peut se dépanner, bien sûr. Hein, on a un problème de moteur, on va. Mais il y a des tensions qui sont dues à des faits de violence qui peuvent avoir lieu.
Est-ce que ça pourrait mal tourner, Damien Davy? Je veux dire, est-ce que justement ces tensions, ces violences auxquelles sont exposés les Amérindiens pourraient les pousser à se soulever de façon plus directe, de façon plus frontale contre les orpailleurs illégaux?
Alors, il y a eu des précédents, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années également, au niveau donc du pays Wayana, sur le Haut Maroni, à la rivière avec le Suriname, donc en territoire français, il y a des Wayana qui ont fait des barrages devant leur village. Et il y a eu, en effet, des heurts avec les Garimpeiros. Il y a des fois des échanges de coups de feu. Il y a actuellement deux citoyens français, amérindiens, vivant à Camopi, qui sont interdits de séjour au Brésil parce qu'ils sont considérés comme criminels, parce qu'ils ont tiré sur des Brésiliens qui étaient clandestinement en France, vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a tous les ans plusieurs personnes qui se font tuer, tant des civils que des gendarmes ou des militaires, liés à ces problèmes d'orpaillage illégaux dans le sud de la Guyane.
Damien Davy,
c'est une réalité.
Il y a beaucoup d'associations, de collectifs guyanais qui dénoncent l'orpaillage illégal. Je pense à Guyane Environnement, je pense au WWF, je pense aussi au Hurleur, qui est un groupe qui avait d'ailleurs appelé lors de la visite d'Emmanuel Macron à une grande manifestation, mais qui finalement avait réuni assez peu de monde. Est-ce qu'il faut se résigner aujourd'hui au fait que, en Guyane, aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus vraiment de voix qui porte pour dénoncer l'orpaillage illégal et ses conséquences sociales et écologiques?
Alors, il y a toujours des voix, mais c'est vrai qu'elles sont pas toujours audibles. Alors, il y a plusieurs problématiques. C'est vrai que, déjà, l'orpaillage clandestin, il est loin de l'avis de nombreux concitoyens qui vivent sur le littoral de Guyane, j'entends, hein. Donc encore plus loin, évidemment, de Paris et de la métropole, comme on appelle ici. Donc ça paraît loin, ça paraît c'est au fin fond de la forêt, ça impacte quelques milliers d'Amérindiens et quelques milliers aussi de Noirs marrons et de populations qui vivent dans le sud. Il y a en effet peut-être une certaine résignation malgré les efforts de l'État qui font quand même des opérations, hein. Mais il faudrait un collègue me disait qu'il faudrait un nouveau régiment de plus pour vraiment être efficace. Et puis, il y a des mouvements militants sur le littoral, alors qui vont militer pour des choses qui, des fois, sont plus proches. Par exemple, il y a le fameux projet de mine industrielle de la Montagne d'Or dans l'ouest guyanais, qui mobilise beaucoup les militants environnementaux. C'est vrai qu'il y a une certaine lassitude. Les chiffres d'année en année sont quand même pas terribles, c'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Mais il est vrai aussi que les mouvements environnementaux en Guyane ne sont pas aussi dynamiques que ceux qui existent en métropole. Toute une société civile qui a à se créer en Guyane. Et symptomatiquement, les mouvements sociaux de mars dernier ont révélé aussi que les Guyanais se rendent compte qu'il faut qu'ils se battent dans plein de domaines.
Vous parlez de résignation, Damien Davy, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de manque de volonté politique? Peut-être que finalement, trop s'attaquer à l'orpaillage illégal, c'est pas forcément dans l'intérêt des orpailleurs légaux. Je ne sais pas si vous aviez vu cette série Guyane qui a été créée par Fabien Nury, qui avait été diffusée à partir de l'année dernière sur Canal+, mais elle est intéressante parce que, je vous le raconte très rapidement, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Vincent, qui est étudiant à l'école des mines de Paris, qui vient faire un stage de fin d'études dans une société minière qui a Pignon-sur-Rue, qui est Cayenne Or en l'occurrence. Mais très vite, il va se rendre compte qu'en réalité, dans ce monde, le légal côtoie perpétuellement l'illégal. Et des employés parfaitement légaux n'hésitent pas à revendre des coordonnées de sites à des caïds locaux pour qu'ils creusent la terre, illégalement cette fois, pour y chercher de l'or. Donc, je me demandais si finalement la réalité n'était pas peut-être si éloignée de la fiction. Il y a peut-être une certaine porosité entre le monde de l'orpaillage légal et celui de l'orpaillage illégal, qui pourrait peut-être aussi expliquer ce manque de mobilisation.
Alors tout à fait, je n'ai pas vu cette série en effet, ici ça, elle a été diversement accueillie, mais en tout cas il est vrai, et ça a été dit en son temps par un préfet, qu'il y avait quand même certaines collusions entre certains acteurs de la filière d'or légal et les mines illégales, notamment les employés ont travaillé tantôt dans les zones d'irpaillage illégal, tantôt dans le légal. On sait qu'il y a des choses qui sont pas claires, de toute façon ils cherchent l'or dans les mêmes zones, et puis il est vrai aussi que les chercheurs d'or illégaux vont dans des zones qui coûteraient trop cher en accès légal et on demande d'autorisation légale, et donc il joue un rôle également dans l'économie. Et il est bien entendu, comme de toute façon toutes les problématiques des mines en général, il y a des personnes qui sont au-dessus et qui s'enrichissent. Même si les orpailleurs clandestins en Guyane, un collègue qui travaille sur ce domaine m'a bien expliqué qu'il y avait beaucoup d'auto-organisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur une filière qui est complètement structurée de A à Z, avec une structuration verticale, un peu mafieuse. Là, il y a vraisemblablement les deux, mais il y a beaucoup d'auto-organisation locale. Donc c'est aussi la difficulté pour le contrôle.
Bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage à l'étranger. Donc on va vous en trouver un, loin, très loin. Vous allez passer 10 mois en Guyane. Ça vous ira très bien.
J'espère que vous avez rien trouvé.
Pourquoi ?
Parce que l'or, ça les rend dingues.
Toi, t'as envie de rentrer en France ?
Non. Moi, j'ai envie de travailler avec vous.
Et justement, petit extrait de cette série Guyane, extrêmement éclairante. D'ailleurs, j'indique pour nos auditeurs qu'une deuxième saison devrait bientôt arriver. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Merci beaucoup à Damien Dévy qui était avec nous depuis la Guyane, qui était anthropologue au CNRS, au laboratoire Écologie, Évolution et Interaction des Systèmes Amazoniens. Peut-être une petite réaction, Sébastien Velu, sur cette zone que vous connaissez, hein, la Guyane, et en particulier sur les populations amérindiennes qui font face à cet orpaillage illégal.
Oui, je crois qu'il faut dire deux choses, c'est-à-dire que comme vient de le dire Damien Dévy, on est bien là dans une région où finalement l'État français il fait pas beaucoup mieux que les États latino-américains dans sa capacité à contrôler son territoire, à assurer l'ordre. Et effectivement, les moyens humains dont dispose l'État français en Guyane ne sont pas grand-chose par rapport à l'extension du territoire. Et puis à toute la fluidité de ces populations, il faut bien voir que c'est... ces exploitations d'or en Guyane, c'est des petits placers, c'est vraiment comme le Far West, hein, avec des petits groupes d'orpailleurs qui creusent les limons du fleuve pour après concentrer l'or. Des exploitants qui viennent généralement du Brésil, avec toute la fluidité que ça implique, hein, dans le mouvement des populations, qui franchissent les fleuves, qui repartent, qui se cachent dans la forêt, et qui provoquent aussi des drames environnementaux, puisque un des principaux ingrédients de l'exploitation, c'est le mercure.
C'est le mercure, ouais. Il faut dire que c'est compliqué de gérer un territoire quand on a une frontière de plus de 700 kilomètres. Extrêmement vaste, hein, cette frontière entre la Guyane et le Brésil, c'est évidemment très compliqué de contrôler, et en particulier quand on a des effectifs de gendarmerie qui sont assez restreints. Merci beaucoup à nos deux invités ici en plateau, Kira Grieco, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes doctorante, chercheuse en anthropologie au Centre de Recherche sur les Mondes Américains de l'EHESS. Un grand merci également à vous, Sébastien Velu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes, vous, géographe et professeur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine à la Sorbonne Nouvelle, et que vous aviez coordonné, d'ailleurs, je l'indique, vous l'avez sous les yeux, un numéro des Cahiers des Amériques Latines consacré justement à l'extraction minière. C'était le numéro 82, c'est bien ça ?
Absolument, disponible en ligne également.
On reprendra notre série consacrée aux métaux, le monde sous perfusion métallique. C'est notre sujet depuis lundi, mais pour l'heure, 11h presque 53 minutes. L'heure pour nous de retrouver le tour du monde des idées. Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous vous intéressez depuis le début de la semaine, vous, au Brexit, et vous le disiez hier, durant la période de transition qui s'ouvrira en avril 2019, le Royaume-Uni sera soumis à toutes les décisions d'une Union européenne à laquelle elle ne participera plus. Position très inconfortable.
Oui, d'autant qu'il paiera sa quote-part sans avoir voix au chapitre. On l'a compris, les négociateurs de l'Union européenne, leur chef Michel Barnier en tête, sont décidés à imposer aux Britanniques un divorce difficile et coûteux. Une sorte d'avertissement. L'Union veut éviter à d'autres États membres la tentation de l'exit. Mais durant cette période où son pays sera devenu un État vassal de l'Union européenne, comme avertit Boris Johnson, le pays, assure Theresa May de son côté, négociera un nouveau partenariat spécial et profond, dit-elle, avec l'UE. Mystification, avertit Anatole Kaletsky. La période imposée à dessein par l'UE, 21 mois, est bien trop courte pour parvenir à mener à terme des négociations commerciales et autres qui nécessiteront en réalité plusieurs années supplémentaires. Et que se passera-t-il au terme de la période de transition, demande cet économiste réputé. Réponse, une nouvelle transition. Car le gouvernement britannique voudra éviter d'arriver aux élections prévues en 2022 dans la situation angoissante qui résulterait d'une rupture avec le marché unique et l'union douanière européen. Plutôt que les scénarios Norvège moins et Canada plus évoqués hier, Kaletsky voit donc se profiler un autre qu'il baptise le scénario Hotel California. Du nom de cet hôtel où, selon le final de la chanson, vous vous souvenez peut-être, vous pouvez régler votre note à tout moment, mais le quitter, ça, vous ne le pouvez jamais. Et Kaletsky d'imaginer, face à cette révélation, une révolte des Brexiteurs de son parti, obtenant le départ de Theresa May du 10 Downing Street. Donc, de nouvelles élections anticipées, probablement gagnées par une coalition réunie autour des travaillistes, et ceux-ci contraints d'organiser un nouveau référendum susceptible d'annuler celui du 23 juin 2016. C'est un scénario que n'a pas hésité à évoquer publiquement l'un des membres du gouvernement actuel, le ministre de la Santé, Jeremy Hunt.
Et il est vrai que le gouvernement conservateur est loin d'apparaître unanime, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la manière de gérer le Brexit et la nature des liens à renouer avec le continent brésilien.
Et en effet, et du coup, certains observateurs, tels l'historien Harold James, n'hésitent pas à prédire un réalignement politique radical sur le modèle de celui que connaît actuellement la France. De même que la question européenne divisait chez nous en leur sein et la droite et la gauche, eh bien le Brexit, je cite, transcende l'ancien fossé qui sépare les deux grands partis politiques britanniques. Au sein du groupe conservateur, à la Chambre des communes, on trouve une petite minorité qui considère le Brexit comme une catastrophe, un large groupe central qui souhaite limiter les dégâts grâce à des compromis négociés, et puis, un certain nombre d'europhobes opposés, eux, à tout compromis, qui poussent un hard Brexit afin de rompre nettement avec l'Union européenne. Mais chez les travaillistes, vous avez aussi une fracture profonde entre une direction radicalisée par Jeremy Corbyn et la majorité du groupe parlementaire. Parce que la direction est profondément hostile à une Union européenne qu'elle juge beaucoup trop libérale et susceptible de l'empêcher de mettre en œuvre son programme socialiste. Mais une majorité d'élus à cette Chambre des communes juge, elle, positivement l'Union européenne. Alors, parce qu'aucune question fondamentale ne sépare les conservateurs pro-UE des travaillistes pro-UE, écrit Harold James, la coopération entre les partis a commencé à se mettre en branle. Et cet historien de Princeton d'envisager la possibilité de voir émerger en Grande-Bretagne un nouveau parti politique sur le modèle de la République en marche. Le Brexit a déclenché une révolution dans ce pays sans tradition révolutionnaire, conclut Howard James. Et il poursuit, à l'avenir, il y a deux scénarios possibles. Le premier serait la poursuite du chaos actuel, je cite, jusqu'à ce que le Royaume-Uni s'écrase sur le marché unique européen et sur l'union douanière. Mais ce scénario laisserait derrière lui, je cite encore, une scène jonchée de cadavres politiques et déboucherait sur une catastrophe économique. L'autre scénario, je le cite encore, le bon sens l'emporte, un pragmatisme inspiré du style Macron prend racine en Grande-Bretagne et supplante le populisme qui a alimenté la campagne du Leave. Alors précisément sur le site La Vie des idées, l'historien français Laurent Varlouzet vient de mettre en ligne aujourd'hui même un texte très intéressant parce qu'il replace le Brexit dans le contexte historique de relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Pour lui, le populisme et la révolte anti-élite ne sont pas la seule piste à explorer si l'on veut comprendre la logique du Brexit. En réalité, la Grande-Bretagne, dit-il, a constamment joué un rôle très important dans les tentatives successives d'organisation de l'Europe. Mais elle l'a toujours fait en poursuivant un objectif de libre-échange sur le plan commercial et intergouvernemental sur le plan politique. Elle a toujours été rétive, par contre, face aux abandons de souveraineté dessinant un horizon franchement fédéral. Bref, elle quitte l'Union européenne parce que celle-ci correspond de moins en moins à ses propres attentes. Mais je reviendrai demain sur ce texte parce qu'il est capital.
Merci beaucoup Brice Couturier. Bah, finalement, vous l'avez évoqué, ce scénario où la Grande-Bretagne ne sort pas. C'est donc le scénario de l'Hôtel California. Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve demain. Dans un instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.